Merci d'écouter RFI. Il est 21h ici à Paris, 23h à Doha.
Martin Guez.
Au Proche-Orient, le Qatar jette l'éponge et retire sa médiation dans la guerre entre Israël et le Hamas. Les négociations sont dans la passe. L'espoir d'un cessez-le-feu s'éloigne. Aux États-Unis, de nombreux Afro-Américains ont reçu de mystérieux textos racistes, et ce dans plus d'une vingtaine d'États après l'élection de Donald Trump. En Corée du Sud, signal brouillé et GPS déboussolé, signal brouillé par son voisin du Nord. Enfin, nous prendrons large. Les 40 marins du Vendée Globe s'apprêtent à prendre la mer en solitaire, sans escale et sans assistance. Au Proche-Orient, le Qatar confirme ce soir la suspension de sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien, après des mois d'efforts diplomatiques infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar avait mené une médiation menant à une trêve en novembre 2023, qui avait duré une semaine et qui avait permis la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Mais depuis, plus rien. L'Émirat du Golfe hébergeait aussi jusqu'ici le bureau de l'organisation palestinienne, responsable de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Un bureau du Hamas qui n'a plus de raison d'être, selon les Qatariens. Depuis plusieurs mois, les États-Unis se montraient insistants pour que Doha n'accueille plus le Hamas sur son sol. Je vous propose d'écouter à ce propos Hasni Abidi, les directeurs du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Les Américains ont demandé aux Qataris de fermer le bureau du Hamas parce que le bureau tire sa légitimité de la continuation des négociations. Les Américains sont sonnés, surtout l'administration Biden, puisqu'elle n'a pas réussi à finir son mandat, au moins avec un accord avec les Israéliens et avec le Hamas. Je pense que cette conclusion les a poussés à demander la fermeture du bureau, qui ne date pas d'hier, mais date de plusieurs mois, puisque pour les États-Unis, le bureau du Hamas ouvert à Doha n'a aucun sens, puisqu'il ne sert à rien. Il ne faut pas oublier que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les Américains et plusieurs États européens.
Des propos recueillis au micro RFI de Pierre-Olivier. Proche-Orient toujours. Au moins 31 personnes ont été tuées ce samedi soir dans l'est du Liban lors de bombardements israéliens. Au lendemain d'un vendredi déjà sanglant, 19 morts hier dans le pays lors de raids de l'État hébreu. Selon le ministère libanais de la Santé, 7 d'entre elles sont mortes dans la ville de Tyr, dont 2 enfants. 6 secouristes ont péri au sud de Beyrouth. Au total, les attaques israéliennes ont fait plus de 3000 morts au Liban depuis le début de l'offensive le 23 septembre dernier. Aux États-Unis, à présent, l'actuel président Joe Biden recevra son successeur Donald Trump à la Maison-Blanche ce mercredi dans le bureau ovale, comme l'a annoncé sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Les deux hommes doivent préparer l'arrivée de la prochaine administration républicaine et discuter des futurs rôles de figure comme l'entrepreneur Elon Musk. Et puis États-Unis encore, où de nombreux Afro-Américains ont reçu des menaces racistes sur leur téléphone dans une vingtaine d'États. Et ce, après la victoire de Donald Trump, les autorités ont annoncé l'ouverture d'enquêtes pour tenter de démasquer les expéditeurs de ces mystérieux envois. Reste à savoir également comment les victimes ont été identifiées et ciblées. Correspondance à New York de Loupna Anaki.
Il est clair que les auteurs de cette campagne ont bien préparé leur coup. C'est ce qu'a expliqué la gouverneure de New York, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête après que des centaines de New-Yorkais afro-américains ont reçu des textos ou des emails racistes. Des messages leur disant, je cite, qu'une fourgonnette viendrait les chercher pour aller cultiver le coton sur la plantation la plus proche. Des messages similaires ont également été reçus par de nombreux afro-américains dans une vingtaine d'autres états de la côte est à la côte ouest, donnant lieu là aussi à des enquêtes du département de la justice et du FBI. Et l'une des questions principales que se posent les enquêteurs est comment les auteurs de ces messages ont-ils pu cibler uniquement des personnes afro-américaines, s'adressant à elles parfois directement par leur prénom. Certains experts évoquent la possibilité de données personnelles achetées sur Internet. Les responsables seraient également passés par des services qui permettent d'envoyer des textos ou des emails à partir de numéros de téléphone anonymisés. Cette affaire qui fait beaucoup de bruit a provoqué la colère des associations de lutte contre le racisme, qui estiment que la victoire de Donald Trump et sa rhétorique ouvertement raciste ne fera qu'encourager davantage ce genre d'incident. Loubna Anaki, New York, RFI.
RFI 21h04, à Genève, Ngozi Okonjo-Iweala devrait rester à la tête de l'OMC, première femme et première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane est la seule candidate à sa propre succession. Son premier mandat s'achève le 31 août 2025. La directrice générale de 70 ans avait pris ses fonctions en mars 2021. Sa désignation pour son premier mandat avait été bloquée pendant des mois par Donald Trump, à l'époque où il était déjà président des États-Unis. Ngozi Okonjo-Iweala, qui avait annoncé dès la mi-septembre qu'elle briguait un second mandat à la tête de cette organisation. L'actualité africaine, à présent, est le Burkina Faso qui veut rétablir la peine de mort dans son code pénal, aboli dans le pays en 2018. Comme le confie à l'AFP une source gouvernementale, la question est discutée et va être instaurée dans le projet de code pénal, a déclaré le ministre de la Justice et d'Assaut, Rodrigue Bayala. Aucune date n'a pour l'instant été avancée. Direction la Corée du Sud, à présent dans ce journal où le trafic naval et aérien est largement perturbé par son voisin du Nord. Depuis deux jours, les signaux GPS et les appareils de navigation sont désorientés et difficilement utilisables sur les côtes sud-coréennes. Le signal est brouillé et notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti, tente de démêler l'affaire.
Des perturbations qui n'ont heureusement pas causé d'accident. Le commandement militaire sud-coréen a prévenu tous les navires et avions de la zone de ne pas se reposer uniquement sur leur GPS pour éviter les drames. Les infrastructures militaires, elles, n'ont pas été touchées par ce brouillage. Ce n'est pas la première fois que le régime nord-coréen effectue des opérations similaires. En juin dernier, les signaux GPS au nord-ouest de la Corée du Sud avaient également été brouillés pendant plusieurs jours. Difficile de savoir quelles sont les motivations du régime derrière ces opérations, mais elles réussissent tout de même à inquiéter les Sud-Coréens des capacités nord-coréennes à perturber leur quotidien et leur sécurité. L'Organisation de l'aviation civile internationale a elle aussi exprimé ses sérieuses inquiétudes quant aux opérations de brouillage nord-coréennes. Le chef d'état-major sud-coréen a précisé que Pyongyang serait tenu responsable de ces actes. C'est Le Fioretti, Séoul, RFI.
Et la Corée du Nord qui a par ailleurs entériné ce samedi un traité de défense mutuelle avec le président russe Vladimir Poutine. Un accord annoncé en juin dernier au sommet de Pyongyang, mais signé seulement aujourd'hui, le traité venant seulement d'être ratifié par le Parlement russe. L'actualité en Europe est des milliers de personnes dans la rue en Espagne, à Valence, criant « assassin » et réclamant la démission du président de région Carlos Mazón. La colère ne redescend pas 10 jours après les inondations qui ont fait plus de 220 morts dans le sud-est du pays. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Dans le viseur également des manifestants, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, les deux hommes qui sont accusés d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours après les terribles inondations du 29 octobre. On termine ce journal sur la côte atlantique française pour espérer apercevoir les beaux bateaux du Vendée Globe. Célèbre course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Une course qui s'élancera ce dimanche des côtes ouest de la France. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues au Sable d'Olonne, d'où partiront pas moins de 40 marins. C'est un record, il n'était que 13 lors de la première édition en 1989. La course qui s'internationalise également avec 11 nationalités représentées. Le Vendée Globe qui entre donc dans une dimension mondiale, Thomas de Saint-Léger.
Il a fallu s'armer de patience, plusieurs heures d'attente avant d'accéder au ponton, de voir enfin les marins et leurs bateaux. 40 monocoques rutilants d'un peu plus de 18 mètres de long, la flotte la plus importante de l'histoire du Vendée Globe. 40, chiffre maximum, arrêté à partir de 3 critères. Alain Leboeuf, directeur de la course.
Sécurité des marins, visibilité pour les sponsors et lisibilité pour le public de plus en plus nombreux à nous suivre.
Un public plus large aussi, séduit en partie sur les réseaux sociaux, où le marin d'aujourd'hui partage ses tranches d'aventure à coups de pastilles vidéo. Clarisse Kremer, deuxième participation au Vendée Globe.
Ça devient vraiment une grosse partie de notre métier, en fait, de rendre l'aventure moins égoïste, d'essayer de faire vibrer les autres, quoi, ceux qui n'ont pas la chance d'aller dans les endroits où on va.
Le Vendée Globe, c'est aussi un héritage, une certaine idée de la course entre performance et aventure, une authenticité à préserver pour l'expérimenter. Jérémy Bayou.
Il faut faire attention à garder un côté unique à cette course. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre et pas de chercher prochain coup à être 50 au départ et à laisser les budgets s'envoler. Je pense que ça serait une erreur.
Pas de limite en revanche pour ceux qui feront le tour du monde sur leur canapé. C'est un autre révélateur de l'évolution de cette course. La simulation virtuelle du Vendée Globe fait un carton. Ils étaient plus d'un million à participer lors de la dernière édition. Thomas de Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
Thomas de Saint-Léger, son plus beau kawé, un samedi de sport avec sur les cours de tennis la victoire de l'américaine Coco Gauff au Master de Riyad en Arabie Saoudite. Premier succès dans ce tournoi de la joueuse de 20 ans, tournoi regroupant les 8 meilleures joueuses de la saison. Coco Gauff, vainqueur en 3-7 en finale de la chinoise Qinwen Zhang, championne olympique à Paris en août dernier. Puis un petit mot de football, rien ne va plus à Manchester City, qui enchaîne une quatrième défaite consécutive toute compétition. Des Sky Blues battus 2-1 par Brighton en Angleterre, et ce malgré un nouveau but d'Erling Haaland. Et puis toujours en Angleterre, une défaite du 15 de la Rose, 37-42 contre l'Australia à Twickenham, après un match complètement fou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Moi je vous laisse avec Laurent Salloir pour Musique du Monde. Excellente soirée. À l'écoute de RFI.